sans détour avec Élisane Pellerin.
Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on commence l'émission avec Valérie Jusqu'à la porte, alias Bluet Atypique. On continue avec Andréane Fortin pour nous parler de ses projets, entre autres la vestiaire. Et on termine avec Stéphane Franqueur de Séjothérapie Québec. Bonne émission! On commence l'émission avec Valérie Jusqu'à la porte, alias Bluet Atypique. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien. Vous?
Ça va très bien, merci. Donc, vous êtes connue sur les réseaux sociaux comme étant Bluet Atypique. Pouvez-vous, en commençant, me dire d'où vient cette idée-là de faire un compte ou des médias sociaux sous le nom Bluet Atypique?
Ben, pour le nom puis pour l'idée du compte, c'est deux choses différentes. L'idée du compte, au départ, c'est juste que j'avais rendez-vous chez le dentiste, ça allait pas du tout. Quelqu'un m'a conseillé d'écrire comment je me sentais, puis quand je l'ai relu, c'était tellement bon, c'était tellement drôle que j'ai décidé de le mettre sur Internet, puis de voir si je pourrais pas jaser avec quelques personnes. Je me disais, s'il y a 100 personnes avec qui je jase là-dessus, ça devrait être le fun. Parce que moi, je suis autiste, puis là, ben le dentiste, c'est pas facile. Finalement, ben c'est devenu une grosse affaire. Puis pour ce qui est de Bluet, le nom Bluet Atypique, je vis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis à Jonquière, donc un Bluet, et j'adore la couleur bleue, puis ben je suis pas mal atypique, donc je trouvais que c'était un nom de compte qui était idéal.
Et bleu, c'est aussi la couleur de l'autisme. Est-ce que vous avez pensé à ça, ou c'est juste moi qui ai trouvé celle-là?
Non, en fait, c'est plus vraiment ça. Alors... ça serait trop long à expliquer pourquoi c'est pas ça, mais dans tous les cas, moi, l'affaire du bleu, c'est arrivé quand j'avais 4-5 ans. La première fois que j'ai vu la boîte de 60 Prismacolor et qu'il y avait un bleu royal dedans, et ça a fait comme bleu et ça c'est jamais parti.
C'est
ça
vrai que c'est collé, une belle couleur. C'est vrai que c'est une belle couleur.
Ah, mais j'aime ce bleu-là.
Vous avez même les cheveux bleus, là, pour les gens qui vous ont pas, qui ne vous connaissent pas là, visuellement, vous avez quand même les cheveux bleus, c'est votre marque de commerce, là, si on peut dire.
Oui, ben quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas encore la possibilité d'avoir des teintures, parce que sinon, en 1977. Alors, mais oui, mais j'en faisais avec bleu méthylène.
Oh, quand même.
C'était quand pas parfait, mais j'essayais.
Vos parents étaient quand même cool, là.
Non, c'était un peu après, là. C'est quand j'étais jeune adulte, là.
OK, ça va.
J'avais mis les cheveux blond pâle, puis j'avais mis du bleu méthylène dedans.
On se débrouille comme on peut.
Oui.
L'important,
dans les années 80.
Oui, voilà. L'important, c'est d'aimer le bleu. Et où est-elle? Tu sais, vous avez dit que ça venait de votre besoin à vous de vous exprimer, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi un besoin de la société d'entendre parler des personnes autistes de la part de personnes autistes elles-mêmes?
C'est sûr qu'il y avait ça, mais moi, c'était pas mon intention au départ.
Oui.
Je ne savais pas que ça irait là. Je savais pas que j'allais être à l'aise. Je savais pas que j'allais être d'accord pour que ce soit public, parce que moi, au début... c'était caché, c'était pas avec mon nom, tout ça. Donc, j'avais aucune idée que ça allait devenir gros comme ça. C'était pas l'intention de départ. Finalement, je suis tombée dans la marmite, comme on dit. Je me suis mis à tellement aimer le sujet de l'autisme que je me suis mis à... C'est devenu mon intérêt spécifique. Là.
Oui.
Je sais pas si vous savez, mais pour les personnes autistes, quand il y a un intérêt qui devient vraiment fort. Alors, à force d'avoir cet intérêt-là, d'interagir avec des gens, de créer du contenu... Puis moi, j'aime apprendre en renommant ce que j'ai appris.
Oui,
donc, j'apprends un logiciel, ben j'aime le raconter à quelqu'un pour consolider mes apprentissages.
Oui.
Donc, ça fait un petit peu la même chose avec l'autisme. Puis en même temps, ben j'expliquais avec ma vie. Alors, c'est devenu mon métier. C'est fou quand même. C'était pas ça qui était prévu du tout. Mais quand j'ai vu le besoin, que c'était apprécié, que c'était voulu, que c'était demandé, ben ça m'a encouragée à continuer aussi, puis j'ai une belle rétroaction. C'est sûr que si j'avais aucune rétroaction...
Non, c'est sûr. Pour en vivre, il faut avoir une rétroaction qui est positive, là, quand même. Il faut être capable d'avoir une certaine base de personnes qui nous suivent, là. Sinon, forcément, en vivre, c'est pas possible. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous avez compris que là, c'était gros, là? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit, OK, là, ça marche, là?
Ben, il y a eu quelques moments clés. À un moment donné, quand j'écrivais seulement, dans les débuts, il y avait un article de blog sur Internet, même pas les réseaux sociaux ni rien, qui était à 25 000 vues, quelque chose comme
quand même.
C'était quand même rare dans le temps. Donc là, j'ai fait comme, oh, OK. Puis ensuite de ça, ben, il y a eu quelques moments clés, là, comme quand TikTok a un peu explosé, là, que j'ai eu. Quand je suis arrivée là-dessus, j'ai commencé à faire des vidéos qui ont eu rapidement beaucoup d'abonnés. Il y a eu quelques petits moments comme ceux-là, mais je dirais que ça a été le fait que ce soit régulier, que je poste du contenu régulièrement, que j'évolue là-dedans, ben ça continue à faire grandir le compte. Puis,
ça a été progressif, là.
Oui. Puis j'ai commencé à écrire aussi des livres.
Oui.
Alors, tout ça, par-dessus l'autre, là, c'est devenu... c'est fou, là.
Oui, on sent votre excitation par rapport à ça. Vous aimez vraiment ce que vous faites, là.
Ah oui, mais j'adore ça, mais ça n'a pas de sens. J'arrêterai pas. J'aime tellement ça. Ouais.
Et en même temps, ça apporte quelque chose. C'est quand même du contenu qui est intelligent puis qui est porteur d'un message. Donc, tu sais, vous ne faites pas du contenu juste pour faire du contenu. Il y a quelque chose de très éducatif là-dedans.
Mais c'est un peu comme si on ne mourrait pas, là. Je ne sais pas si ça se voit ce que je dis, mais tu sais, il reste quelque chose. J'ai toujours été créative. J'ai besoin de créer. J'ai besoin de sentir qu'il reste quelque chose après que j'ai fait une action. Puis là, j'ai ce sentiment-là de créer quelque chose de beau puis que c'est utile en plus.
Oui.
C'est hyper valorisant. Oui.
Parce que vous êtes quand même reconnu, je mets ça entre guillemets parce que peut-être que vous aimerez pas le terme, là, vous êtes quand même reconnu en guillemets comme une experte. Tu sais, on vous demande votre opinion puis on vous demande d'expliquer des choses. Vous êtes, vous avez quand même des gens qui vous écoutent puis qui vous valorisent genre, par rapport à ça. Là. Donc, tu sais, vous êtes quand même quelqu'un de reconnu maintenant au Québec. Là.
Oui, mais tu sais, comme n'importe qui s'intéresse à un sujet, on peut pas être expert de tous les domaines de ce sujet-là. Mais effectivement, il y a certains sous-thèmes qui vont m'intéresser plus que d'autres. Et dans d'autres sous-thèmes, ben, je vais avoir moins de connaissances. Alors, à ce moment-là, soit que je vais travailler avec quelqu'un qui les a, ou je vais m'organiser pour les obtenir. Mais ben, je suis retournée aux études aussi en parallèle. Alors, ça va peut-être consolider là. Parce que oui, on me donne souvent ce titre-là, mais je sens pas qu'il est toujours valide.
Non, je comprends.
Qu'est-ce que je fais. Puis j'aimerais ça que ça le devienne faux.
Vous êtes aux études en quoi?
Pardon?
Vous êtes aux études en quoi?
Ben là, j'ai pris deux universités. Il y en a une, j'ai commencé en psycho. L'autre, j'ai pris des ETSA contexte éducatif. Puis celle en psycho, ben je vais faire des trucs en éducation en parallèle, puis ça, puis je vais voir la formule finale, ça va donner quoi là. Mais je veux me diriger vraiment dans la création d'outils de plus en plus pour les personnes autistes ados adultes, autant des outils en vidéo que papier, que tu sais de l'outil là. J'en fais déjà, j'ai déjà pas mal de contrats de ça. C'est ça que j'aime. Ben, c'est pas que ça que j'aime faire, mais ça, c'est quelque chose que je me sens particulièrement compétente. Étant donné mon background aussi en design graphique, puis tout ça, ça me permet d'être encore plus à ma place là-dedans. Puis je suis concernée. Donc, j'aimerais développer encore plus cet aspect-là. Puis j'ai d'autres idées aussi, mais là, c'est pas tout décidé, mais là, je fais mes cours, là. Puis on va voir après, on va commencer par le bac, on va finir le bac. On va voir après c'est quoi la suite, selon ce dans quoi je suis capable d'aller en étudiant à distance toujours.
Vous êtes quand même occupée. En plus, vous avez, j'ai vu sur les réseaux sociaux parce que je vous suis, vous avez quand même une fille. Donc, est-ce que vous prenez...
Enfants.
Vous avez trois enfants. Est-ce que vous avez le temps de dormir ou c'est rendu superflu, ça?
Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, mes enfants, ils ont atteint le 20, 22 et 25 ans.
Oui, fait qu'ils ont moins besoin d'aide au quotidien. Là.
C'est le contraire, là. C'est souvent, tantôt, j'ai demandé, là, Maxence, peux-tu venir m'aider? Des fois, c'est pratique, là. C'est juste, c'est plus la même chose.
Ouais,
c'est vraiment des relations hyper le fun avec eux autres. Puis, c'est plus, ils ne demandent pas autant de temps.
Ouais,
ils ont leur vie.
Ouais. Mm. en même temps, ça vous donne un peu de temps libre là, pour développer vos passions puis vos sujets puis où vous voulez aller.
Oui, totalement. Mais j'attendais que je finisse d'être grand pour
vieux,
pouvoir
ouais.
peut-être éventuellement retourner à l'école puis avancer là-dedans.
Pensez-vous que... oui, ben j'imagine, hein, comme tous les parents, on aime nos enfants, mais des fois, c'est prenant quand ils sont très petits. Hein. Mais en même temps, après, quand ils sont rendus grands, on s'ennuie des fois du moment où ils étaient petits. Mais croyez-vous, donc, le Québec est inclusif? On se targue au Québec d'être une société très, très inclusive. Est-ce que vous pensez que Québec est si inclusif que ce qu'on dit ou il y a encore des défis?
Ben, c'est souvent oui, c'est souvent non. J'ai vu des super belles histoires comme des aberrations qui n'ont pas de sens. Mettons une belle histoire, ça va être une patronne qui adapte son poste de travail pour une de ses employées qu'elle apprécie beaucoup, puis qu'elle veut faire un autre type de tâche. L'employé est autiste et dyscalculique. Puis elle a fait une adaptation qui a permis de continuer sa belle relation employeur-employé avec cette personne-là. Puis disons, bon, on a une belle histoire. Mais d'un autre côté, des histoires d'horreur où est-ce qu'il y a un formulaire que la personne pouvait pas remplir spécifiquement en lien avec son handicap. Je pense à une personne qui est handicapée au niveau visuel.
Oui.
Puis pour ce seul formulaire-là, comme ça fait partie des procédures, ben, il n'y avait pas le droit de le faire remplir par quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas le droit d'avoir son adaptation pour le remplir avec ses appareils. Fait qu'il ne pouvait pas continuer cet emploi-là juste pour cette raison-là. Donc, il y a de tout. Je vois un effort d'inclusion beaucoup, mais je vois certaines personnes qui ont peur ou qui pensent que ça peut être compliqué et qui ne connaissent pas bien nécessairement les différences. Puis plus qu'on informe, ben, tu sais, on a peur de ce qu'on connaît pas, là.
Oui.
Alors, en informant, ben, ça dédramatise aussi, ça démystifie, ça permet de voir, tu sais, quel genre de personnes que j'ai besoin et quel genre de défis, moi, je suis
oui.
capable de prendre, puis ça n'a pas d'impact sur le travail en tant que tel.
Oui.
Puis quel genre de défis peut-être qui serait moins cohérent avec, mettons, ce type de travail-là.
Oui.
C'est sûr que moi, là, je ne demande pas à un employeur de, mettons, ben là, juste à mon compte, mais mettons, là.
Oui,
je
ne
peux
oui.
pas lui dire, OK, là, je veux qu'il y ait plus de bruit, puis ça sent pas bon, puis que, mettons, ça soit tout à la bonne température. T'sais, mettons, moi,
oui.
ça va être des défis reliés à des choses comme ça. Ben, je ne vais pas aller demander à un employeur que c'est super bruyant dans une grosse usine bruyante. T'sais, je vais aller vers quelque chose
oui,
qui
clairement,
correspond. Clairement. Pour pas que ce défi-là devienne un obstacle, parce qu'il y a moyen, non?
Est-ce que c'est compliqué, l'inclusion? Vous avez dit, tu sais, les gens pensent que c'est très compliqué, mais est-ce que c'est compliqué en ce moment, l'inclusion au Québec? Est-ce qu'on a beaucoup de défis administratifs qui rendent ça très compliqué?
Oui, ça, c'est épouvantable. C'est ridicule. Je nommerai pas là, l'organisme et tout ça, mais je connais quelqu'un qui voulait justement engager spécifiquement une personne autiste ou alors un profil
oui.
X. Okay? Il y avait d'autres choix que ça. Là. C'était pas obligé d'être une personne autiste, mais ça y tentait vraiment. Il est allé vers un organisme d'emploi, puis ils l'ont carrément rebuté. Là. Ben là, savez-vous dans quoi vous embarquez puis tout ça?
Ah,
ben,
non, okay.
ben oui, justement, c'est un emploi 3 jours/semaine, très répétitif. Puis je paye un vrai salaire, mais ça prend quelqu'un de rigoureux, mais qui aime ça faire tout le temps la même chose. Puis
oui.
ils l'ont viré de bord, là.
Non, ça, c'est
ils n'ont même pas accompagné là-dedans, ils n'ont pas voulu. Ils ont fait, ben là, vous mettez votre offre-là, puis c'est nous autres qui va. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas... Pour vrai, là, tout ce qui est administratif, c'est horrible. Ça fait plusieurs fois, moi, que je veux justement faire certaines collaborations un certain temps pour certains types de travail avec des personnes qui
oui.
ont des handicaps. C'est tellement compliqué que finalement, d'anxiété, j'abandonne parce que tous les formulaires à côté, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, il y a une belle inclusion quand c'est un emploi qu'on fait juste dire, bon, OK, moi, tu ne corresponds à mon poste de travail, tu as un handicap, c'est pas grave, puis on va adapter ce petit détail-là. Puis tu sais, ça, il n'y a pas de problème, c'est simple. Mais dès qu'on veut passer par quelque chose, un programme...
Dès qu'on veut un accompagnement, ça devient très difficile.
Oui, puis l'accompagnement, souvent, il n'est pas ciblé. Ils mettent
oui.
souvent les personnes autistes dans le même bateau que les personnes, mettons, qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont d'autres sortes de défis. Puis c'est pas les
c'est pas
mêmes
adéquat.
Défis.
Oui.
C'est pas le bon accompagnement.
Oui, je comprends.
Tu ne donnes pas les bons outils, tu sais. C'est comme si moi, je m'en vais mettre justement une canne blanche à quelqu'un qui a besoin d'un fauteuil roulant.
Oui, oui, c'est gentil, mais ça aide pas, là.
Non, c'est ça, là. C'est, okay. pas, c'est pas pertinent, puis... Ah, c'est pas évident. Je savais pas qu'on allait se lancer là-dedans. Mais justement, j'ai 2 guides pour l'emploi, si jamais.
Où est-ce qu'on peut les trouver?
Ben, il les a en librairie, ces guides-là. Je suis autiste et je travaille. Puis j'ai embauché une personne autiste.
Oh, quand même!
Oui, puis je sais tout ce que je travaille, c'est vraiment gros, là, c'est un bloc. Puis dans le fond, c'est pas aussi la personne ressource qui accompagne la personne autiste, mais ça peut être pour un proche, un parent, ça peut être une personne dans le domaine de l'emploi, ça peut être quelqu'un d'un programme, des choses comme ça. Puis c'est vraiment pour aller faire le tour là, avec la personne de tous les petits à côté. C'est pas tant... Tu sais, souvent, c'est pas la tâche que la personne n'est pas capable de faire. La tâche est capable,
oui.
Mais c'est tous les petits à côté. Ça va être jusqu'au comportement dans la salle à manger, ça va être
oui, c'est que ça. C'est inclusion. Oui, c'est inclusion au milieu de travail.
Oui, c'est vraiment relié à plein de choses autour, on va dire. Le avant, le après aussi. Puis toutes les choses qu'on a vues qui pouvaient être des obstacles dans le monde de l'emploi, puis qui souvent ne touchent même pas directement au travail, mais qui vont avoir une incidence. Donc, c'est gros.
Quel petit geste on pourrait faire pour vraiment aider l'inclusion au Québec?
Je pense qu'il faut vraiment revisiter notre façon d'aborder les choses mentalement, je pourrais dire. Dans le sens où est-ce que je trouve qu'on se fait souvent des idées de qu'est-ce qui est important puis pas, puis c'est pas nécessairement les bonnes choses. On devrait se concentrer plus sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut que la personne ça soit le roi de la machine à café ou on veut qu'il fasse la tâche qu'on lui a demandé? Je trouve qu'on demande beaucoup de choses.
Oui, je comprends.
On demande des choses qui n'ont pas de sens aux personnes, alors que c'est pas ça le rôle de l'emploi.
Est-ce qu'on veut trop y normaliser? Est-ce qu'on veut trop qu'ils fassent comme tout le monde?
Oui, souvent, okay. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utiles, puis c'est juste, pour nous, c'est être extrêmement énergivore de répondre à ces attentes-là,
oui.
Qui ne changent rien au final. C'est juste de l'apparence.
Oui.
Moi, je pense que si ça ne dérange pas la personne elle-même, ça ne nuit pas son fonctionnement, tout ça, que ça ne dérange pas les autres, ça veut dire que ça ne les empêche pas de quoi que ce soit.
Ah ouais,
à un moment donné, il faut revisiter ce qu'on pense de, mettons, des mouvements stéréotypés ou des petites choses comme ça.
Oui, qui sont pas graves finalement, mais qui, vous l'avez dit, là, qui peuvent être très énergivores pour vous. Et vous, on entend, vous êtes quand même une histoire à succès, là. Ça a l'air de bien aller. Mais quels sont vos défis? Est-ce que vous avez encore des défis au quotidien?
Oui. Bien, moi, je trouve qu'il y a une césure très marquée là, entre fonctionner et pas fonctionner souvent. Puis c'est rapidement que je vais tomber dans un état de « je ne fonctionne pas
okay. ».
Mais je connais quand même ces zones-là qui sont les plus à risque, puis je me prépare en conséquence. Oui. Mais ça demeure compliqué, comme, mettons, prendre l'avion.
Oui,
c'est un exemple extrême, là. On est vraiment à l'extrême. Mais j'ai besoin d'accompagnement important.
Okay,
parce
oui.
que c'est pas possible. Il y a trop d'affaires. C'est pas une étape qu'il faut que je me prépare à cette étape-là. C'est un monde d'étapes. Ça n'a pas de sens. Il y a trop d'affaires. Fait que des fois, ces contextes-là sont difficiles. Au niveau du bruit, comme mettons, il y a une place que je vais trois fois semaine, puis là, ils ont enlevé les tapis la semaine passée pour
okay,
un événement.
Oui, oui.
Puis là, ça a fait que c'était écho.
Très écho, oui. Puis ça, c'est assez dérangeant, là.
Que c'était tout mêlé.
Okay,
c'était tout mêlé. J'avais plus de cerveau. Là, j'étais comme. C'est comme si, mettons, j'avais passé une nuit blanche. Là, j'étais comme vraiment là, comme si. J'avais eu, mettons, des médicaments là, que,
pour
la douleur
là,
qui endorme ou quelque chose de même. Là, c'était vraiment... Là. l'épicerie, c'est un enjeu. C'est sûr, quand j'y vais, je prends juste quelques petites choses vraiment vite, vite, là, comme plus pour dépanner. Là, mettons, des œufs puis un autre aliment vite, vite. Là.
Ouais,
mais
ouais.
Je peux pas, mettons, faire l'épicerie.
Une grosse épicerie, là, c'est pas dans vos tâches à vous, ça.
Non, puis quand j'étais plus jeune, puis j'avais pas encore de conjoint, puis tout ça, dans le temps, parce que ça fait 23 ans, je pense que je savais que 24, je sais plus, en tout cas, bref. Ben, mettons, moi, j'allais à l'épicerie de nuit.
Oh, OK, je comprends.
Ouais, à Montréal. C'est ça que je faisais, là, sur Saguenay. Mais,
c'est sûr qu'au Saguenay, il doit en avoir beaucoup moins, d'épicerie de nuit, hein, ça doit pas...
Je pense pas qu'il y en a, là.
Non, c'est ça, je pense pas qu'il y en ait non plus, ouais.
Non, mais... Tu sais, c'était correct la nuit. Il n'y en avait pas de problème.
Oui, parce que c'était quand même beaucoup plus calme, là.
Oui, c'était très, très calme, là. C'était comme un peu post-apocalyptique, là.
Oui, je comprends. Il y a une espèce d'ambiance très, très nocturne.
Oui, il y a ce défi-là. Des fois, il y a des défis au niveau, mettons, de surcharge au niveau visuel. Récemment, j'ai reçu des documents, justement, en lien avec l'école. Puis, c'était des photocopies. Puis oui, je peux déchiffrer ce qui est écrit. Tu sais, je peux juste lire ce qui est écrit, même si ça demande vraiment un gros effort pour moi, mais je ne comprends pas.
Oui, je comprends.
Fait que là, ça a été compliqué de réussir à obtenir l'original. Puis il y a même un document que j'ai payé. Les autres disaient, oui, mais t'as pas payé ça, pis ça. Ouais, mais moi, ça me le prend. Hein.
Vous choisissez vos batailles, là.
Ben, ils l'avaient pas, eux autres, là. Ils pouvaient me le donner, mais pas en beau puis propre. Ils étaient là, ben, tu peux pas acheter le gros livre juste pour un chapitre? Ben oui. Parce que moi, j'en ai besoin de chapitre.
Ouais, c'est ça.
Fait que oui, je l'ai acheté le gros livre, puis au pire, il sera intéressant plus tard, là. Mais, tu sais, c'est des détails comme ça qui font que, ça, c'est devenu tellement gros, l'histoire de la photocopie. Parce que, moi, je m'en rappelais, là, mettons, au secondaire, puis tout ça, qu'il y avait des documents que j'étais incapable d'assimiler ce qui est écrit. Puis là, je suis à l'université, je peux pas niaiser, là. C'est ça. Puis ça a pris beaucoup de place dans ma tête parce que je savais qu'ils comprenaient pas. Puis pour eux, c'était comme, ouais, mais c'est lisible. Oui, mais
oui,
non.
Oui, mais être lisible puis être compréhensive pour votre cerveau à vous, c'est deux choses.
Ça. Je t'attaquais de partout. C'est comme si j'ai plein de picots partout dans ma tête, là.
Oui,
je suis pas capable. Fait qu'il y a plein de petites choses comme ça, des fois, que, tu sais, j'ai un bon air d'aller, tu sais, ça roule, puis tout d'un coup, boum! Il y a une affaire handicapante que j'ai pas pensé.
Puis ça vous frappe.
Prémunir contre ça, puis après ça, ben, je peux pas fonctionner dans ce contexte-là. Donc, ça va quand même arriver beaucoup. Mais, tu sais, mon milieu de vie, tout ça, tout est le fun autour de moi, donc ça va quand même bien,
aide,
tout est adapté à moi, puis, ouais.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis de nous avoir partagé un peu de votre vie professionnelle et personnelle.
Ben, merci de m'avoir invité à l'émission.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée.
On s'entretient maintenant avec Andréane Forté. Bonjour, Andréane.
Oui, allô?
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, merci. Andréane, on te reçoit parce que tu es, entre autres, une actrice. On t'a vu dans la série Vestiaire. Et t'as plusieurs projets là, qui s'en viennent, donc je voulais en parler avec toi. D'abord, comment ça va avec Vestiaire? On a vu que vous sortiez donc à saison 4.
Dans le fond, on fait la saison 3.
Il y a saison 3, oui.
Oui, c'est ça. Puis ça se passe pas bien, mais en fait, on a terminé de tourner en janvier.
Oui.
Donc là, le 22 avril, on va sortir la saison 3. Ça a super bien été. Là, c'était vraiment le fun, une belle équipe.
Est-ce qu'on a des nouvelles pour la saison 4 ou pas encore?
On n'en a pas encore. On croise les doigts.
On se rappelle là-dessus.
Comment?
On se rappelle là-dessus.
Et je m'excuse, on voit que j'ai pas compris.
J'ai dit, on se rappelle là-dessus. Mais aussi, donc, au niveau de tes autres projets, là, tu vas avoir... Tu as aussi un spectacle d'humour qui s'en vient.
Oui, c'est bon. Moi, le mois d'avril est bien chargé en spectacle d'humour. Là. On a un spectacle qui s'en vient le 30 avril au Jésus. Ça s'appelle le Mal à Mocher.
Et c'est un spectacle qui parle donc de différents types d'handicap.
Oui, c'est ça. Dans le fond, on est 6 humoristes en situation d'handicap. Puis on vient faire des blagues, de l'autodérision face à notre handicap lors d'un spectacle qui va durer 1 heure et demie environ au Jésus à Montréal.
Et tu fais ça avec ta collègue Charlie Rousseau, qu'on a vu dans Vestiaire aussi.
Oui, exactement. Il y a Charlie Rousseau de
Vestiaire. Il y a Michel Cordé aussi, hein?
Oui, exact. Ouais. Michel Cordé, puis Marie-Christine Rissignolo
ouais,
aussi.
Okay. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça?
Bien, en fait, c'est une initiative de William Bernacchez, qui est humoriste. Lui, il lui manque une jambe. Puis, il a décidé de faire de l'autodérision avec ça, de créer aussi un spectacle de show mal à mocher. Donc, au début, ça se passait au bar Le Patriote à Montréal. Puis, c'est ça, finalement, cette année, on a décidé de faire ça au Jésus, de donner un plus grand défi avec une plus grande salle.
Est-ce que c'est ta première participation ou tu y as déjà participé?
Bien, j'ai déjà participé l'année passée, mais j'étais en duo avec Michel.
Oui.
Puis là, cette année, on essaie les deux séparément. Fait que c'est ma première fois en solo, là, je dirais que j'ai participé à ça. Là.
Et t'as pas, c'est ça, il n'y a pas eu encore de première représentation, donc tu sais pas encore comment ça va se passer pour toi en solo?
Ouais, non, ben en fait, ce mois-ci, oui, là, j'ai des open mic à Montréal, là, okay. J'en ai une dizaine, mais tu sais, des petites 5 minutes, des 10 minutes ici et là. Mais vraiment, le spectacle va être un peu différent là, le 30 avril. Oui.
Et comment tu sens la réception? Est-ce que les gens sont prêts à ce type de contenu-là?
Bien, je pense que oui. Je pense vraiment qu'on est rendu là. Tu sais, si on l'accuse, on accuse handicap dès le départ, le monde est moins mal à l'aise. Puis, tu sais, je pense qu'on est temps là, de comme. Il est temps d'enlever les tabous par rapport à ça.
Et est-ce que tu en ressens encore, toi, des tabous dans la société?
Bien, peut-être un peu. Mais vraiment moins. Je trouve que la société évolue vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment mieux outillés, mieux informés aussi. Fait que non, je pense vraiment que dans la société, on est vraiment rendu plus informés, là, je dirais.
Parce que toi, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, tu as le syndrome de Gilles de la Tourette là, qui vit avec des tics. Est-ce que tu sens que les gens donc, sont quand même... informé par rapport à ça ou t'as encore beaucoup à leur apprendre et puis t'es vu un peu comme les gens ne comprennent pas?
Bien, je trouve qu'il y a une grande amélioration, mais il y a vraiment toujours place à amélioration, justement. Je pense que les gens sont pas nécessairement au courant tant que ça de ce que c'est que la Tourette. Ils vont encore penser que c'est des mots vulgaires. Ça existe, mais que ce soit que ça, mettons, puis c'est pas ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire encore au niveau du syndrome de la Tourette, surtout au niveau des interventions dans les écoles et tout. Mais on a vraiment pris un grand pas vers l'avant. Je trouve que c'est vraiment, vraiment mieux.
Il y a beaucoup de stéréotypes, là. Donc, tu sais, tu disais, il y a des personnes qui disent des mots vulgaires. Il y en a, mais c'est pas juste ça. Et les gens se raccrochent beaucoup à ce type de stéréotypes-là.
Oui, exactement. C'est vrai que, tu sais, souvent, on le caricaturé aussi, là, oui. À la télé et tout. Fait que c'est pour ça que je suis contente d'en rester. Tu sais, on a pris mon personnage, ma propre tourette à moi, donc ce qui représente un peu la majorité des gens. Puis, c'est ça, je pense qu'on l'a caricaturé, puis stéréotypé, c'est vrai. Mais faut dire que ça existe quand même, mais que c'est pas que ça.
Oui, effectivement, ça existe, mais tu l'as dit, là, ça a été peut-être un peu poussé hein, pour les besoins de l'humour, là, pour les besoins de la télévision ou d'autres types de médias, puis que peut-être que les gens en connaissent pas assez sur les autres types de symptômes que vous pouvez avoir ou d'enjeux que vous pouvez avoir. Andréane, je te propose de faire une courte pause et on revient tout de suite après pour continuer l'entrevue ensemble. On est de retour avec Andréane Fortin, qui est comédienne professionnelle. Et tu parlais des écoles. Il me semble là, de mémoire qu'il y a quand même eu là, des enjeux dans les écoles là, avec des enfants qui avaient des syndromes de la Tourette et qui ont été mal reçus ou mal accompagnés avec ça. Là.
À faire comme éducation. Puis, c'est pour ça que moi, j'invite tout le temps les gens à aller voir, à s'informer auprès de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Souvent, on va se faire accompagner, on va mieux comprendre aussi c'est quoi, comment l'élève réagit quand il y a une crise explosée ou des trucs comme ça. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup de conférences dans les écoles, fait que ça me fait fou le plaisir de me déplacer dans les écoles, faire les conférences pour éduquer là-dessus. Puis, non, c'est ça, je pense que le personnel enseignant, puis la direction a à apprendre sur le syndrome de la Tourette, ça va vraiment aider auprès des interventions, c'est sûr.
Est-ce que les formations sont inadéquates?
Dans le sens où, des fois, on va penser que c'est un trouble du comportement.
OK, oui, c'est pas ça.
Quand c'est pas ça, c'est ça. Fait qu'on va mélanger, mais tu sais, c'est normal parce que le monde, ils sont juste pas au courant. Fait que je trouve que c'est quand même assez normal de pas savoir comment interagir. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de s'informer, là.
Oui, puis peut-être que, comme je le disais, la formation est inadéquate ou peut-être qu'il n'y en a pas assez de formation là, pour former les personnes dans les écoles et ailleurs, dans d'autres lieux, sur ce qu'est cette condition-là puis de comment interagir avec des personnes comme ça.
Exactement,
oui,
tout à fait d'accord.
Puis de ton côté, on a parlé de vestiaires donc, qui arrivent à la fin du mois d'avril, on a aussi parlé de ton spectacle. Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent?
Oui, ben là, c'est un projet encore confidentiel, mais je vais animer une émission télé prochainement. Fait que j'ai hâte de pouvoir en parler plus. Sinon, j'ai des projets aussi. J'ai un film qui va sortir dans lequel j'ai joué. J'ai beaucoup de conférences, des spectacles d'humour qui sont en rodage en ce moment. Donc là, je suis en train d'écrire avec mon autrice pour avoir un numéro d'humour un peu plus long. J'ai des beaux projets qui s'en viennent, puis des beaux projets qui sont arrivés aussi, qui vont sortir prochainement.
Est-ce que tu veux avoir un spectacle humoristique à toi de ton cru?
Ben c'est sûr que j'aimerais beaucoup ça. Je pense que ce serait un rêve, là, un peu. Fait que ce temps-ci, je tente l'expérience, puis advienne que pourra, j'imagine qu'un jour, je vais peut-être avoir un spectacle solo, là, un one-woman show, comme on dit.
Mais tu y mets, en tout cas, de l'énergie, donc c'est quand même quelque chose là, sur lequel tu planches ces jours-ci. Puis au niveau du film, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? J'imagine qu'à ce moment-ci, le film, c'est plus confidentiel.
Oui, ben le film, en fait, il va sortir bientôt. Mais je sais pas encore quand. C'est un film fait par, Bianca... je m'excuse, j'ai vraiment un bon blanc. Ça a été tourné l'année passée. Mais je pense que dès que ça va sortir, je vous le réécrire parce que je sais pas du tout, je me souviens plus de la production.
Parfait. Et puis, sinon, bon, tu fais des conférences dans les écoles qui sont des conférences pour inspirer les jeunes et faire comprendre un peu ton parcours. Parce que toi, t'es une comédienne que t'es formée, donc une comédienne professionnelle.
Oui, j'ai étudié à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Puis, dans le fond, c'est ça, on va... suite à ça, je me suis inscrite dans plusieurs formations, puis j'ai eu des contrats à la télé, puis là, je me lance en humour.
Donc, tu manques pas de projets, quand même?
Non, ça roule, ça arrête pas. Puis, j'ai oublié de mentionner aussi, j'ai aussi fait une captation vidéo d'une danse avec Mythic de Tourette. Puis on va faire un lancement en juin pour cette captation-là. Puis c'est une danse sur la chanson de William Cloutier qui m'a écrite « J'ai pas choisi de t'avoir ».
Oui.
Fait que ça va être vraiment, je pense, un beau... ça va être un beau lancement. Puis c'est un autre projet qui me tient beaucoup à cœur. Fait que je suis dans les démarches en ce moment pour faire ce lancement-là, pour lancer sur les réseaux sociaux la danse Tourette.
Ça va, j'imagine, participer au fait de... d'informer les gens puis d'éduquer là, sur la Tourette.
Oui, exactement. C'est vraiment dans le but de sensibiliser puis de manière artistique parce que en tant qu'artiste, j'ai l'impression que c'est bien de démystifier puis de sensibiliser avec l'art. Fait que ouais.
Et est-ce que tu as une formation en danse?
Non, j'ai pas de formation en danse, mais j'ai une bonne formation de tic. Fait que c'est des mouvements avec des tics.
Ça c'est un bon point. Ça, t'as beaucoup de formation là-dedans. Il faut savoir utiliser ses points forts.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai fait beaucoup de gymnastique, de cheerleading, puis en gymnastique, on avait de la danse. Fait que tu sais, je suis assez créative.
Oui, ça va, c'est bon. De toute façon, tout le monde peut danser, hein. Professionnel ou pas, tout le monde est capable de danser.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on te souhaite bonne chance dans tes projets futurs, puis on se reparle pour les futurs projets.
Bien, merci beaucoup, c'est vraiment gentil de m'avoir accueilli, là. C'était super le fun.
Merci, bonne journée.
Et bonne journée, au revoir.
On parle maintenant avec Stéphane Francoeur de Zoothérapie Québec. Bonjour, M. Francoeur.
Bonjour, Mme Pellerin.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Ça va très bien, merci. J'avais envie de parler de la zoothérapie parce que c'est peut-être moins connu là, pour ses bienfaits pour les personnes en situation de handicap. Mais les personnes en situation de handicap ont quand même une clientèle que la zoothérapie peut aider. Donc, j'avais envie qu'on en parle ensemble. D'abord, qu'est-ce que la zoothérapie?
Alors, l'azothérapie, c'est le fait d'utiliser l'animal. Un intervenant veut utiliser l'animal à des fins thérapeutiques, mais il va servir surtout de la réaction que suscite l'animal pour atteindre les objectifs ciblés chez le bénéficiaire ou chez l'usager. Autrement dit, je vais me servir de la capacité que l'animal a suscité une réaction. Alors moi, si j'arrive avec mon chien, par exemple, et je m'en vais rencontrer Mme Tremblay va voir mon chien, elle va voir elle va avoir une réaction parce que j'arrive avec l'animal, mais là, l'intervenant va servir de cette réaction-là pour atteindre ses objectifs. Puis là, on parle d'objectifs, ben là, on peut parler de travailler effectivement ben, le physique, l'affectif, les motifs, le moteur, on peut travailler le cognitif, donc on peut travailler plein de choses avec cette réaction-là. C'est pas seulement la présence animalière, c'est le fait qu'il y a un intervenant qualifié oui. qui sert de réaction, puis là, on est capable de travailler pour faire en sorte que la personne bien, se porte mieux, se sente mieux, puis puisse se maintenir ou s'épanouir.
Donc, vous avez dit, des personnes qualifiées, donc qui sont de vrais thérapeutes, il n'y a pas seulement présence d'animaux, parce qu'on le sait, les animaux eux-mêmes sont quand même adéquats là, pour mm-hmm. Ça va aider, ça peut aider au niveau du moral, ça peut aider au niveau de toutes sortes de choses, mais quand même, dans le cas de l'azothérapie, un thérapeute, donc, qui a des objectifs derrière ça, là, au-delà de l'animal.
Ça prend l'intervenant. Je vais toujours, moi, parler plus d'intervenant que de thérapeute, parce que bien souvent, quelquefois, ce terme-là, thérapeute, peut être un peu galvaudé, et parce qu'on peut être, par exemple, je sais pas, moi, travailleur social, on peut être ergothérapeute, on peut être... Il y a plein de choses qui peuvent englober le
oui,
métier d'intervenant. Généralement, pour faire de l'azothérapie, ben ça prend un bagage d'intervention sociale ou de relation d'aide. Je vous dirais, c'est comme un peu la base pour la zoothérapie. À partir de là, bien, l'intervenant, bien, lui, comme je vous dis, il va se servir de l'animal pour atteindre ses objectifs auprès de l'usager. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un animal de compagnie
oui.
qui peut nous faire du bien quand on l'a. Ça, effectivement, ça peut nous apaiser, on le flatte, ça nous fait du bien, ça nous calme. Mais l'intervenant en zoothérapie, lui, il va aller plus loin que... Ce fait-là, il va aller se servir de l'animal pour atteindre ses objectifs ciblés. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre les deux.
Et vous, vous travaillez donc pour Zoothérapie Québec. Qu'est-ce que oui. Fait Zoothérapie Québec? Quels sont les services que vous offrez?
Qu'est-ce que ça mange en hiver, Zoothérapie?
Qu'est-ce que ça mange
Québec?
En hiver?
On est un organisme qui existe depuis 1988. On est dans le quartier Villeray à Montréal et on sert principalement une clientèle qui est institutionnalisée. Ça veut dire qui vit dans des résidences pour aînés, qui sont hospitalisés, qui sont dans des CHSLD, des centres de soins pour les aînés, des écoles. On fait c'est une clientèle qui est régulière, une clientèle qui est adaptée. On touche des gens effectivement qui ont différentes problématiques, que ce soit par exemple qui sont aux prises à vivre avec des difficultés liées par exemple à l'Alzheimer, des gens qui ont en DITSA, par exemple.
Oui.
Alors, on se trouve à toucher plein de clientèles qui ont divers besoins. Alors, c'est important d'avoir des intervenants qui sont capables d'œuvrer auprès de ces clientèles-là. Et c'est ce qu'on fait. Puis, on fait aussi du soin palliatif dans les centres hospitaliers. Puis, on touche, oui, effectivement, des clientèles qui ont un multi-handicap, par exemple, qui sont polyhandicapés.
Et vous faites aussi donc de la formation, hein, si je ne me trompe pas, ces autres épiques?
Oui, effectivement, on s'est retrouvés, nous, à former. On a été peut-être un des premiers même à former les gens aux thérapies. Parce que ça n'existait pas, nous, quand on a commencé. Les gens venaient nous voir pour dire « Oui, mais là, j'aimerais ça faire de zoothérapie. » Donc, on va vous former parce qu'on a commencé par former nos propres intervenants.
Oui.
Et par la suite, ben, effectivement, on s'est retrouvé à former des gens qui venaient nous voir pour se former directement en zoothérapie.
Comment vous expliquez le besoin et l'engouement? J'ai l'impression qu'il y a un engouement dans les dernières années sur la zoothérapie.
Je pourrais pas dire nécessairement qu'il y a un engouement différent. Je sais que la relation avec les animaux, la pandémie l'a changé un petit peu. Ça, on le sait, ça, on l'a vécu. Est-ce qu'il y a plus de demandes qu'avant? Je ne serais pas prête à dire ça nécessairement. Par contre, effectivement, la demande est là. il y a une demande qui est toujours là en zoothérapie. On le voit, on le voit dans les courriels puis les demandes que certains milieux nous font directement avec diverses clientèles. Est-ce que ça change? Est-ce que je pourrais pas vous dire que ça a beaucoup explosé nécessairement, mais en fait, ce qui change la donne, c'est que c'est un peu plus connu.
Oui, et peut-être, reconnu. Oui.
Et ça, bien, effectivement, ça aide.
Qu'est-ce qui explique ce besoin-là du contact avec l'animal puis avec les intervenants?
Bien, je vous dirais que dans les clientèles avec lesquelles nous, on travaille, ce qu'on remarque souvent, par exemple, dans les CHSLD ou les résidences pour aînés, bien, il y a beaucoup de solitude, hein?
Oui.
Beaucoup de gens sont tout seuls et c'est pas tous les gens qui reçoivent la visite de leurs parents, leurs amis, leur famille. Et il y a des gens que si on n'allait pas les visiter, il y aurait personne qui irait les visiter à part le personnel soignant.
Oui.
Alors ça, ben je pense que ça a un impact et ça joue beaucoup. Parce que tu as beaucoup de cas de gens isolés, de gens qui sont seuls. Et ben le fait de leur amener comme activité l'azothérapie, ben effectivement, sont capables de moins d'être plus en maintien, autrement dit. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient avoir tendance à dégringoler plus rapidement si effectivement il n'y a pas ce maintien-là qui est fait. Mais le fait d'avoir, par exemple, ne serait-ce que ces rencontres une fois par semaine ou une fois ou deux semaines, ben ça peut travailler à maintenir ces gens-là directement avec le maximum de leur capacité.
Et j'imagine qu'Animal donc favorise le contact avec les personnes, y compris, j'imagine, avec des personnes pour qui s'exprimer verbalement est peut-être plus difficile.
Plus difficile. Et ce que ça fait, en fait, c'est que, on le disait un peu plus tôt, ça ouvre des portes. Ça permet à l'intervenant de rentrer plus facilement en contact avec la personne. Et bien souvent, ben j'aime ça que vous le disiez, parce que ça passe souvent par le non-verbal. Ça va passer par ça va créer une émotion chez la personne et juste le fait d'avoir le chien là qui est là, il y a cette émotion là qui se crée et c'est avec ça que l'intervenant va travailler. Et c'est ça qui est intéressant parce que le chien il parle pas. Donc, il a son propre langage. Donc, les gens aussi vont développer, je vous dirais, un peu leur propre langage par rapport à ça. Et ça, c'est intéressant parce que bien souvent, une bonne personne de clientèle est non-verbale.
Oui.
Parce qu'ils sont incapacités pour X, Y raisons. On va prendre le temps avec ces gens-là de développer un mode de communication qui peut être adéquat.
Dans le système actuel, entre autres le système de santé là, qui connaît des difficultés importantes, je le dis de façon très polie.
Qui connaît beaucoup de variations.
C'est encore plus poli que moi, ça, c'est encore plus poli que moi. Qui connaît beaucoup de variations. Est-ce qu'on devrait miser encore plus sur l'azothérapie?
Ben, je pense qu'on peut miser sur l'azothérapie parce qu'on sait que ça fonctionne.
Oui.
On sait que c'est là, on sait qu'il y a des résultats et on sait que quand on n'est pas là, il y a malheureusement des conséquences par rapport à ça aussi. On n'est pas tout seul, il y a d'autres types d'activités qu'on est capable de faire là, avec les gens. Mais on sait très, très bien que quand on stimule pas les gens, quand les gens sont pas stimulés, que ce soit autant les aînés, les enfants, que les personnes en milieu hospitalier, quand ils sont pas stimulés, ben il y a une perte. Il y a une perte de mobilisation sur leur état de santé, sur leur présence d'esprit et tout ça. De sorte que, oui, ça joue, oui, il y a un impact. Puis, oui, il pourrait y en avoir davantage, mais l'argent sera toujours le nerf de la guerre, oui, malheureusement, parce que il y a des frais, il y a des sous qui sont impliqués dans tout ça. Puis les systèmes coupent.
Oui.
on le voit de plus en plus présentement. On a eu la pandémie qui a ouvert la porte à plein de choses. Là, on est dans un retour de balancier, mais on le voit présentement. Oui, les budgets sont un petit peu plus restreints, sont un petit peu plus suivis aussi. Puis entre manger puis faire de l'azothérapie, on va toujours préférer manger. On s'entend.
Clairement.
On sera toujours un petit peu malheureusement le parent pauvre, même si on sait les bénéfices que d'être là, d'être présent auprès de ces clientèles-là, avec les animaux, avec les chiens, ça crée un impact.
Puis j'imagine que ça fait de la prévention dans l'optique où, au final, ça prévient des problèmes de santé importants, là.
Ben, en fait, oui, parce qu'on, bien souvent, avec certains clientèles, on est dans le maintien.
Oui.
On fait en sorte que, effectivement, ben, si vous avez besoin de donner un petit peu moins de médication parce que les gens sont un peu moins anxieux, parce qu'ils sont moins, je vais pas m'avancer trop parce que c'est du cas par cas aussi.
Oui, clairement.
C'est pas une pilule magique, ça règle pas tous les problèmes, mais si on est capable de moins médicamenter parce que les gens se portent mieux, parce qu'ils ont une activité de zoothérapie à la semaine ou aux deux semaines, bien, veut pas, effectivement, ça a un impact sur les budgets au bout de l'année, ne serait-ce qu'au niveau des médicaments.
Oui, et ça coupe, évidemment, vous l'avez dit, l'isolement social, qui lui aussi peut mener à des problèmes de santé physique, à des problèmes de santé psychologique importants. Là.
Oui, effectivement. Puis ça, ben on le remarque beaucoup, les gens qui arrivent dans les CHSLD sont souvent seuls.
Oui.
Quelquefois la famille est derrière, mais quelquefois la famille ne suit pas toujours. Puis ne serait-ce par exemple que d'utiliser la zoothérapie pour permettre à ces gens-là, dans ces milieux-là, d'entrer en relation avec les autres personnes qui sont dans ce milieu-là. Ben ça aussi, tu sais, ça fait partie de ce qu'on fait quand on va dans les RPA ou qu'on va dans les CHSLD. T'sais, on favorise la communication entre les gens qui sont là, qui sont présents. Puis on travaille le maintien. On travaille à maintenir les actifs, maintenir l'activité cognitive et émotionnelle.
Puis j'imagine que ça rend le quotidien quand même un peu moins lourd, là, alors que ça peut être très lourd là, pour certaines personnes qui ont des conditions très difficiles.
Ça peut devenir un petit peu plus agréable, effectivement, sachant que on va avoir la visite d'un intervenant avec un chien le vendredi, par exemple. Ben effectivement, on attend le vendredi avec impatience.
Et parlez-nous, en terminant, on connaît les chiens, on connaît les lapins là, pour les zoothérapies, mais parlez-nous d'animaux qu'on serait peut-être plus surpris ou de quelque chose qui est un peu plus, peut-être plus loufoque là, que vous
ben,
avez
moi,
vu.
J'ai vu dans avec le temps, là, dans la littérature, tout ça, je sais qu'en France, ils amenaient un petit poney dans les hôpitaux.
Oui, j'ai vu ça.
Ça, effectivement. C'est quelque chose que moi, j'ai pas vu beaucoup ici. Je sais qu'il se fait de l'équithérapie, puis la thérapie
est
par le cheval au Québec, mais d'amener un petit poney comme ça dans les hôpitaux, ben effectivement, c'est un petit peu plus audacieux. Je sais qu'il y a de la zoothérapie qui se fait avec des dauphins. Je sais que ben, pour ça, ben il faut être équipé.
Oui, là, c'est sûr que...
Habiter en Floride, ça peut aider. Mais,
oui.
Mais effectivement,
bon
puis... C'est d'arriver. L'important, c'est d'avoir un animal significatif. C'est que l'animal veuille dire quelque chose pour la personne. Que l'animal, effectivement, nous, on a choisi le chien à l'époque parce que les personnes qui ont fondé Zoothérapie Québec avaient des affinités avec cet animal-là. Mais en même temps, le chien, c'est peut-être l'animal qui a un plus grand consensus dans la mémoire
clairement.
Collective
clairement.
Des gens. Les gens ont toujours des souvenirs d'avoir eu un chien. Le voisin, il y avait un chien. Les gens qui habitaient sur les terres, à l'époque, les fermes, ben il y avait toujours des chiens de ferme.
Oui.
Alors, effectivement, ça fait partie comme de la mémoire collective, le chien. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on travaille avec le chien en Zoothérapie Québec. Puis bon, c'est un animal qui se transporte bien. C'est un animal qui répond bien. Généralement, les gens aiment les chiens. Les gens aiment les chiens, mais les chiens aussi sont tournés
vers les gens,
humains. Alors ça aussi, c'est un peu ça. Bon, on peut pas dire toujours ça des chats, mettons.
Oui, c'est ça. Des fois, ça leur tente pas, puis il y en a pas grand-chose à faire.
Mais il y en a. J'en ai vu, moi, des chats tournés vers l'humain.
Mais ça dépend du chat. Là. Ça aussi, c'est du cas par cas.
C'est du cas par cas.
Quand est-ce que vous allez débourser pour un poney?
Ben pas demain matin, ça je peux vous garantir. Écoutez, nous, on se développe avec le chien. On est très, très heureux de se développer avec le chien. Puis, c'est un long travail. C'est ardu. On prend pas n'importe quel chien.
Non,
les chiens sont évalués. Ils sont entraînés avec nos intervenants avec qui ils travaillent. On tisse des liens. Puis, on travaille avec ces liens privilégiés-là, de sorte que ça prend du temps. C'est pas parce qu'on choisit un chien que demain matin, il va être sur le terrain. Là. Il y a un certain temps à ça.
Ouais,
on a la chance à Zoothérapie Québec, on travaille avec nos propres chiens qui appartiennent à l'organisme, mais il y en a d'autres qui viennent de familles qui habitent autour de Zoothérapie Québec et qui nous sont prêtés. Alors, dans les deux cas, ben les chiens viennent au bureau le matin parce que les chiens qui appartiennent à l'organisme sont placés dans des familles d'accueil.
Oui.
Alors, ils viennent le matin au bureau, les intervenants partent travailler avec, ils reviennent en fin de journée, puis les familles viennent récupérer les chiens en fin de journée. De sorte que le chien vient travailler le matin, puis il repart chez lui le soir.
un peu comme vous, mais ça prend quand même, c'est ça, j'imagine que ça prend quand même des bénévoles là pour s'occuper de ces chiens-là, puis pour
le jour, effectivement, on a la chance d'avoir des bénévoles qui viennent, ben, qui viennent promener les chiens, qui viennent brosser les chiens, qui viennent s'assurer que les espaces canins sont bien nettoyés, bien rangés, tout ça, de sorte qu'on a la chance d'avoir des gens qui viennent donner un sérieux coup de main dans le jour à Zoothérapie Québec. Et si on n'avait pas ces bénévoles-là, puis au même titre que nos intervenants, si on n'avait pas ces intervenants-là, ben, on pourrait pas faire toutes ces activités-là de façon extraordinaire, puis d'aider tous ces gens-là, toutes les clientèles que je vous ai nommées tout à l'heure, ben c'est grâce aux intervenants, puis c'est grâce aussi aux bénévoles qu'on a.
Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été fort agréable d'en apprendre un peu plus sur la zoothérapie, puis on vous souhaite bonne chance pour la suite, en espérant que les budgets vont suivre les besoins.
On se le souhaite. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est bien aimable à vous.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir, Mme Bellerin.
On commence la revue de presse avec une personne qui défend les droits des personnes en situation de handicap au Kenya. Vous savez, j'aime bien vous parler d'initiatives dans des pays où la situation de handicap est peut-être moins reconnue et moins défendue. Donc, on parle de Lavina Odjor, qui est une militante sociale, humaniste, cofondatrice et directrice de Heart to Heart Smile, donc de... On peut traduire en français là, par un sourire cœur à cœur, qui est une organisation gérée par des bénévoles pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leurs aidants et de contribuer à un Kenya plus inclusif parce qu'évidemment, l'inclusion au Kenya est à ses débuts. Les personnes en situation de handicap ont quand même là, peu de ressources et peu de services vers lesquels se tourner. Donc, Heart to Smile a été créé donc en 2018 pour aider les personnes en situation de handicap et les aidants à mieux connaître leurs droits et à mieux les défendre dans la société. Ça vient du fait là, que Madame Lavina Odjor avait un frère qui est en situation de handicap elle-même et elle a dit donc la tâche est difficile. Les choses sont... Tout reste à faire au Kenya. Par contre, depuis quelques années, on voit une volonté politique, une volonté citoyenne d'améliorer les choses. Donc, les programmes viennent en aide à des personnes en situation de handicap vulnérables et aux parents aussi de personnes en situation d'handicap. Les locaux sont installés, donc... à côté des bureaux administratifs du village pour faciliter la communication entre le politique et les personnes en situation de handicap. Donc, c'est aussi un centre de rééducation pour les enfants et les adolescents en situation d'handicap. Évidemment, les fonds restent difficiles, hein, c'est des bénévoles là, qui s'occupent de ça, mais comme je l'ai dit, il y a une réelle volonté politique de changer les choses et c'est surtout à travers des dons d'amis ou de citoyens là, du village et des villages des alentours là, que cette organisation a pu voir le jour et peut continuer ses activités. Donc, c'est une bonne chose là, que ça avance dans différents pays au niveau des droits des personnes en situation de handicap. Il y a aussi, donc, j'avais le goût de vous parler en France d'un festival de métal, donc de musique métal, qui est particulièrement inclusif pour les personnes en situation de handicap. On parle donc de la loi de 2005 sur l'égalité des droits des personnes en situation de handicap et on se rend compte que 20 ans plus tard, l'accessibilité des lieux culturels a progressé en France, mais la participation réelle des publics en situation de handicap reste assez limitée. Une expérimentation donc qui a été menée par entre une passion de la famille Elfrest un festival de musique métal a permis de montrer que l'inclusion ne se limite pas donc à avoir des moyens techniques, donc à rendre le lieu comme étant accessible, mais également à favoriser l'accessibilité, donc à favoriser la participation sociale de personnes en situation d'handicap. On a fait donc la découverte d'un des plus grands festivals en France au niveau de la musique métal, donc Hellfest. Et on a voulu donc aider la participation de personnes qui vivent avec des troubles psychologiques, des limitations physiques. On s'est rendu compte au final que il fallait en fait faire en sorte de favoriser la participation sociale des personnes en situation de handicap, non seulement en rendant les lieux accessibles, mais également en facilitant donc leur participation, en rendant les gens donc plus accueillants, en expliquant mieux aussi ce qu'est la situation de handicap, en mettant aussi de l'accompagnement, de la formation, afin que ces gens-là soient bien accueillis. Et donc, maintenant, dans ce festival de Métalia, on reçoit des personnes en situation de handicap de plus en plus à chaque année. Et on veut montrer par ce festival-là que c'est possible pour les personnes en situation de handicap de participer, mais qu'il faut mettre en place non seulement une participation des lieux adaptés, mais également un accompagnement adapté pour ces gens-là. Donc, c'est quelque chose à suivre dont on pourrait s'inspirer au Québec dans nos festivals qui sont très connus, mais souvent très peu adaptés pour les personnes en situation de handicap. C'est tout pour notre revue de presse. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine.